I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Claire Moragibour avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Donc ce soir, nous revenons sur le traditionnel discours de l'État de l'Union que le président Donald Trump a prononcé mardi soir. Une allocution très solennelle où le président américain a abordé plusieurs sujets comme le mur et l'immigration, mais aussi la réussite économique du pays ou les réussites de sa politique extérieure comme les négociations nord-coréennes ou la lutte contre le groupe État islamique. Cette émission sera séparée en deux parties. Nous traiterons des questions plus politiques ou économiques en première partie d'émission et nous reviendrons sur l'annonce d'un nouveau plan consacré à la lutte contre le VIH-Sida en deuxième partie. Démarrons donc cette partie politique en compagnie de plusieurs invités. Nous allons accueillir Jean-Éric Brana, il est maître de conférence à Paris 2 Assas et il est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Trumpland, portrait d'une Amérique divisée ». C'est un ouvrage qui est paru chez aux éditions Priva en octobre 2017. Monsieur Brana, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Très bien, bonsoir. Nous serons également en compagnie de Léonard Wanchekon, économiste béninois et professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton en Pennsylvanie. Donc, Monsieur Wanchekon sera joint dans quelques minutes. Et puis, bien évidemment, nous ouvrons comme à l'habitude. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir en direct. Je vous donne le numéro de téléphone, le 001-202-205-26-33, 001-202-205-26-33. Vous nous laissez vos coordonnées et on vous rappelle. Alors, je voudrais accueillir le professeur Wanchekon. Je disais auparavant qu'il allait nous rejoindre. Je crois, professeur, que vous êtes avec nous également.
Oui, c'est là.
Bonsoir, professeur, et merci beaucoup de nous accompagner dans cette émission donc consacrée au discours de l'État de l'Union. Alors, pour démarrer, nous allons bien sûr aborder des questions politiques. Jean-Éric Brana, vous êtes spécialiste des États-Unis, chercheur à l'IRIS également. Pour vous, s'agissait-il d'un discours de campagne ?
Ah oui, tout à fait. On a beaucoup lu que c'était un discours d'unité dans lequel Donald Trump tendait la main à l'autre parti. En réalité, d'abord, ce n'est pas l'habitude de Donald Trump et il nous avait montré le jour même de l'investiture qu'il ne rentrait pas dans cette tradition pourtant essentielle dans la démocratie américaine. Et on a bien vu pendant ce discours qu'effectivement, il ne pensait qu'à 2020 et qu'à plusieurs reprises, il a taclé même assez sévèrement les démocrates qui, eux, s'en sont aperçus bien évidemment tout de suite et ont réagi d'ailleurs soit par des mimiques, soit par des cris, soit par des applaudissements quelquefois qui étaient même nourris pour montrer qu'il rentrait dans ce jeu et s'en amusait.
Monsieur Wanchekon, vous avez suivi bien sûr le discours d'ici des États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Monsieur Brana?
Oui, entièrement. Mais en fait, c'était de la propagande électorale, puis assez manipulatrice, quoi. Donc, notamment les personnes qu'on a présentées pour essayer directement de faire un clin d'œil à certains groupes, les hispaniques,
les vétérans.
Oui, les vétérans, tout le reste.
Un enfant atteint d'un cancer.
Voilà. Et puis, en plus, ils ne sont pas toujours très honnêtes, quoi. Notamment sur la question de la violence, le crime. Donc, il n'y a pas une seule. Pas du tout une mention de la violence dans les écoles, disons, mais plutôt. Les crimes à la frontière du Sud, la frontière du Texas. Voilà. Donc, c'est suis entièrement d'accord avec le collègue.
D'accord. Alors, nous n'aurons malheureusement pas le temps d'aborder, hein, bien sûr, tous les thèmes de ce discours qui a duré presque 1h30. Mais le président Donald Trump a de nouveau évoqué le mur qu'il souhaite construire à la frontière mexicaine pour bloquer l'immigration clandestine. Écoutons-le.
In the past, par le passé, la plupart des gens dans cette chambre ont voté pour un mur. Mais le bon mur n'a jamais été construit. Je vais le construire.
Professeur Wanchekon, ce mur est devenu un véritable symbole des dissensions entre les démocrates et les républicains. Il est aussi à l'origine de l'impasse budgétaire qui a conduit au shutdown le plus long de l'histoire américaine. Pensez-vous que l'on se dirige vers un nouveau blocage d'ici quelques jours ?
Bon, j'espère que non, mais je pense qu'il y a une forte chance parce que les démocrates sont déterminés. Parce que c'est un peu le mur, c'est beaucoup plus symbolique pour Trump, un genre de monument donc pour son opposition à l'immigration. Donc c'est beaucoup plus cela que vraiment contrôler le crime et contrôler l'immigration. Donc les démocrates sont opposés. Maintenant, quelle solution de compromis aura-t-il? On ne sait pas. Mais en tout cas, on aboutit. Disons, on est en train de se diriger vers, disons, une nouvelle impasse.
Quels sont les aspects du discours de Donald Trump qui vous ont le plus surpris?
Bon, personnellement, ce qui m'a surpris, c'est le fait que il est... En fait, c'est le ton au début. Était un peu surprenant, donc c'était un peu anti-Trump, quoi, c'est-à-dire conciliateur, tout le reste. Et puis, bon, par la suite, on a le Trump combatif, etc. Et puis, voilà, il faut quand même dire que la façon dont ça a été délivré, la forme, c'était beaucoup plus structuré, quoi, que d'habitude, même si, bon, beaucoup de commentateurs ont trouvé que c'était pas du tout cohérent. Le contenu ne l'était pas. Mais ça postule tout le reste, bon, c'était ça, quoi. Mais vraiment, pour dire, en ce qui concerne l'essentiel, hein, il n'y a pas grande surprise, quoi. C'est peut-être la délivrance qui était un peu plus disciplinée que d'habitude.
Que le contenu.
C'est quand même qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé ça. Voilà.
Alors, vous devez nous quitter malheureusement dans une petite minute. Je vous propose évidemment au milieu de l'émission un petit peu votre mot de la fin et vous, ce qui a synthétisé un petit peu ce discours.
Voilà, mais en fait, moi je pense que pour moi, ce que j'ai beaucoup appris dans ce discours, c'est que Trump va quand même être un adversaire formidable en 2020. Il va choisir les points qui l'arrangent le plus. Il va essayer de manipuler donc les chiffres, manipuler disons certains groupes pour pouvoir essayer d'avoir le vote. Il est vraiment un politicien machiavélique, c'est machiavel, quoi. Voilà. Ouais.
Un grand politicien en tout cas.
Voilà, c'est ça. Mais il faut souligner la réponse donc de Madame Abrams, donc qui était très claire, très précise et vraiment c'était une très très belle réponse. Donc c'était un bon choix. De ce côté-là.
La première femme afro-américaine à prendre la parole dans ce cadre-là.
Absolument, mais c'était très bien fait. C'était vraiment bien, le contenu était, c'était précis. Bon, peut-être au début, son histoire personnelle, c'était un peu long, mais après, c'est bien repris, et puis voilà, donc c'est bien. Donc, tout ce que je crains, c'est que, en fait, voilà. J'ai aussi quelque chose que j'ai oublié, en fait, le fait qu'il ait commencé. Qu'il a essayé de présenter, le Parti démocrate comme un parti socialiste à la Venezuela, quoi. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, étant donné que les gens de la gauche, de la partie gauche, du Parti démocrate, bon, ils parlent beaucoup plus de l'Europe sociodémocrate, la Finlande, la Norvège, la France, etc. C'est pas du tout. Disons le régime autoritaire donc en faillite de Venezuela. Bon, mais ça fait une belle campagne, montrer que voilà les démocrates sont attachés à un régime qui a échoué, quoi.
Professeur Wanchekon, je vous libère, vous avez un rendez-vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Monsieur Brana, j'espère que vous êtes toujours avec nous. J'aimerais aussi aborder la création, l'annonce de la création d'un congé maternité et paternité qui serait intégralement payé et pris en charge par le gouvernement fédéral. Est-ce que c'est une grosse surprise venant du camp républicain ?
Venant du camp républicain, ça serait une grosse surprise, parce que pour l'instant, ça n'est que venant du camp de Donald Trump. Il faut quand même faire la différence entre les deux, parce que le coût de ce congé maternité-paternité n'est pas encore accepté par le Parti républicain, même si on a compris qu'au mois de novembre, ceux qui ont été élus ou réélus l'ont été dans des conditions un peu exceptionnelles et ont quasiment prêté allégeance à Donald Trump, donc il sait que de ce côté-là, c'est lui désormais qui fait l'opinion et la pluie et le beau temps au sein du Parti républicain, à condition de ne pas aller trop loin sur du côté de la ligne blanche. Alors oui, c'était une surprise et c'est vrai que c'est un mauvais coup dans le jardin des démocrates, puisque là on est sur leur proposition de base, et si vous me permettez, je vais en même temps répondre à une question que vous m'avez pas posée, mais qui a été posée précédemment. Qu'est-ce qui m'a surpris? Moi, ce qui m'a surpris, c'est que l'ensemble des propositions de Donald Trump étaient déjà inscrites dans cette campagne de 2020 et qu'elles répondaient chacune d'entre elles a un des candidats ou une des candidates qui sont en train de monter. Le congé maternité, c'est plutôt les femmes démocrates progressives qui le portent. Vous avez parlé de la lutte contre le cancer, c'est une proposition de Biden qui avait été très claire déjà la dernière fois, vu ce qu'il est arrivé sur le plan personnel, il voudrait lutter contre le cancer sur le plan fédéral. Et à chaque fois, chacune de ces propositions, effectivement, étaient placées là-dessus, jusqu'à repousser, comme le disait mon collègue, effectivement, les limites du socialisme jusqu'au Venezuela, qui était un moyen de cornériser le Parti démocrate. Ça, c'est très important, et ça revient à votre question. Avec le congé maternité, il le cornérise également, puisque si le Parti démocrate ne vote pas cette question-là, il sera en faute, et s'il le vote, c'est Donald Trump qui en sera crédité.
Tout à fait. Alors, nous avons Louis Moutanga, un auditeur, qui nous a appelé de RDC. Allô, monsieur Moutanga, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ah, parfois les lignes avec
bonsoir,
la RDC.
Bonsoir.
Bonsoir.
En tout cas, nous sommes contents d'aborder ce sujet. D'une part, ça nous a beaucoup marqué par rapport à la diversité qu'il y a dans la classe politique des États-Unis, malgré le projet de l'actuel président Trump. On pense qu'il y a toujours une petite divergence, mais je pense au-delà des divergences, nous observons qu'il y a le sentiment national qui dépasse tout. C'est ce que nous avons remarqué.
Voilà, alors la ligne n'est pas très bonne, monsieur Moutanga, donc je vais lire le message que vous nous aviez laissé sur Facebook. Malgré les divergences entre les démocrates et les républicains, il y aura toujours un compromis par le fait que le sentiment d'un pays uni reste toujours supérieur aux divergences. C'est un message très optimiste. Vous êtes toujours dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique, seconde partie de l'émission consacrée au discours sur l'état de l'Union que le président Trump a prononcé mardi dernier. Écoutons un nouvel extrait de ce discours.
Dans mon budget, je vais demander aux démocrates tout comme aux républicains de s'engager pour mettre fin à l'épidémie du VIH aux États-Unis dans les 10 années à venir. Nous avons réalisé bien des progrès déjà. Ensemble, nous l'emporterons sur le sida aux États-Unis et au-delà.
Donc Donald Trump a donc annoncé mardi vouloir dompter l'épidémie de sida aux États-Unis avant 2030. Une annonce évidemment accueillie positivement par les associations et les experts et que le Congrès va être appelé à financer dans le prochain budget. J'accueille pour cette seconde partie Karl Hoffmann. Vous êtes le président de l'ONG PSI, présente dans plus de 50 pays et spécialisée dans la planification familiale, la santé reproductive, le paludisme, l'eau et l'assainissement et bien sûr le VIH-Sida. Je signale également que vous avez été ambassadeur au Togo et numéro 2 de l'ambassade des États-Unis à Paris. Bonsoir Monsieur Hoffmann.
Bonsoir Claire.
Alors, quand vous entendez, voilà, Monsieur Donald, le président Donald Trump dire « Ensemble, nous vaincrons le sida en Amérique et au-delà », cette annonce vous a-t-elle surpris ?
Pas tout à fait. Il faut dire qu'on avait quelques indications avant le discours qu'il allait prononcer, qu'il allait dire quelque chose sur la situation du VIH aux États-Unis. Nous savons que l'engagement des États-Unis dans la lutte contre le VIH en Afrique et ailleurs, ça date depuis longtemps. Mais nous constatons que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, dans d'autres pays du monde, c'est un problème qui reste toujours non résolu. Donc je dois dire que ces paroles pendant le discours ont été plutôt bien accueillies.
Alors cette annonce rappelle la proposition lancée au même endroit en 2003 par George W. Bush du programme PEPFAR, le fameux programme américain contre le sida dans le monde, un très grand programme considéré évidemment comme l'un des plus grands succès de la lutte contre l'épidémie. Le secrétaire à la santé Alex Azar nous a ensuite fourni quelques détails. L'objectif est de réduire le nombre de contaminations par le VIH aux États-Unis, qui est aujourd'hui de 38 000 contaminations par an, donc la réduire de 75% en 5 ans et 90% en 10 ans. On en est où aujourd'hui et qu'est-ce qui bloque aux États-Unis ?
Je dirais que ce qui bloque aux États-Unis, ce sont peut-être les mêmes éléments qui bloquent nos progrès ailleurs. C'est-à-dire, nous avons depuis un certain temps maintenant dans nos mains les moyens techniques, je dirais, de faire face à ce fléau avec des médicaments qui sont plutôt beaucoup plus accessibles maintenant, avec beaucoup plus d'efficacité, avec des programmes, par exemple, en Afrique biomédicale comme la circoncision, avec des programmes de communication qui sont bien adaptés. Tous ces éléments ont été rassemblés depuis une bonne dizaine d'années. Mais ce qui manque parfois, c'est le leadership politique, l'engagement des leaders, le financement, la cohérence d'un programme pour pouvoir mettre en place tous ces éléments.
Quand le président Trump mentionne dans son discours, il a dit « beyond, au-delà », pensez-vous que ces programmes d'aide vont également profiter à l'Afrique ? Est-ce qu'il va y avoir une aide évidemment pour les États-Unis, mais également pour le monde entier ?
Oui, mais il faut dire que quand il s'agit d'une maladie infectieuse comme le VIH, ça serait la folie de croire qu'on pourrait effacer dans une partie du monde et ne pas faire face ailleurs dans le monde, parce que bon, les frontières sont quand même transversables. Mm-hmm. Donc, je pense que, comme vous avez mentionné, les États-Unis ont un engagement qui date depuis au moins 2003 et en fait, qui date d'avant cela, dans la lutte ailleurs, et ça c'est plutôt à travers les budgets, disons, du département d'État, du USAID. Ici, aux États-Unis, évidemment, ce sont des budgets différents du département de la santé, Health and Human Services, donc deux lignes budgétaires différentes, mais je pense que la lutte reste unie, et il y a une conception de la part des gouvernements, que ce soit républicains ou démocrates, pour une lutte concentrer et coordonner aux États-Unis et ailleurs.
Vous dites que cette annonce ne vous a pas complètement surpris, donc que c'était un petit peu attendu. Toutefois, si on écoute les ONG, tout le monde s'inquiète justement du manque maintenant de financement, ne serait-ce que des préservatifs, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. Et qu'on préfère la lutte à base de médicaments. Est-ce que, qu'en pensez-vous, et pensez-vous que il va y avoir finalement une deuxième vie de ces campagnes pour la protection grâce aux préservatifs?
Mais ça serait très bien, mais je m'en doute. Comme vous dites, il y a un certain ralentissement de financement nécessaire pour faire face, que ce soit à travers des préservatifs ou les médicaments ou d'autres interventions, comme je viens de mentionner. Il y a des institutions en place, il y a un certain rythme budgétaire bilatéral ou multilatéral, comme par exemple à travers le Fonds mondial. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il y a la démographie dans le monde qui veut dire qu'on n'a jamais eu autant de jeunesse qu'on l'a actuellement. On n'a jamais eu autant de jeunes qui entrent dans leur vie sexuelle à travers le monde. Donc le même investissement qu'on a peut-être mis sur la table l'année dernière pour faire face au VIH ne suffirait pas l'année prochaine, justement à cause de l'augmentation des populations. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi.
Alors, Monsieur Brana, finalement, si on pour finir un petit peu cette émission, cette proposition de congé maternité-paternité, cette proposition consacrée à la lutte contre le SIDA, tout ça, c'est des idées extrêmement sociales.
Oui, c'est ça. On a un nouveau Donald Trump, effectivement, qui est un Donald Trump social. En réalité, il est en train d'essayer d'aller séduire les indépendants, où il a un grand vivier. Et on a vu un sondage CBS au lendemain de ce discours de l'Union qui montrait que 82% des indépendants avaient trouvé que c'était un bon discours. Donc, cela fonctionne, effectivement. Et comment ça ne fonctionnerait pas? Le catalogue était quand même bien rempli. Et c'est vrai qu'on ne pouvait qu'être satisfait d'entendre qu'il y avait autant de mesures en direction des populations américaines. Il va donc essayer de gagner des voix du côté des femmes, du côté des minorités, en particulier les Afro-Américains, les Asiatiques, il a déjà un petit peu remonté d'ailleurs. C'est là où ça pêchait le plus. Pour l'hispanique, c'est un petit peu plus compliqué. Il aura un peu de mal d'ici 2 ans de combler le retard.
Très bien, merci beaucoup de votre participation. Monsieur Hoffman, vous avez le mot de la fin.
il faut accepter et voir dans quel sens, dans quelle mesure les propos du président Trump vont être traduits dans des mesures concrètes, par exemple le financement des programmes on ne connaît pas encore ces détails. Il est assez facile de prononcer ces mots, mais ça reste difficile de livrer l'impact nécessaire et ça dépend des budgets et des programmes concrets.
Très bien. Et bien, peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler ici dans l'émission donc L'Amérique et vous sur VOA Afrique. Merci beaucoup. Je remercie évidemment donc tous mes invités, le professeur Juan Chacón de l'Université de Princeton aux États-Unis, Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris-Assas, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, et bien sûr Karl Hoffman, le directeur de l'ONG PSI, présent dans 50 pays. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Sims Loumami et à Firmin Max Koyaveda pour la réalisation, à Sidrak Franklin qui était à la console. Claire Morin-Gibourg était avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité présenté par Morgane Guiriec et Eric Manirakedza. Très, très bonne soirée à vous tous.